D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Un hôtel est un hôtel, un palace, c'est du rêve. Voilà pourquoi ils sont meublés de façon aussi hideuse, sans doute. Leur style épais n'existe nulle part ailleurs. On n'a jamais vu nulle part ces chaises en style Louis XV beurré, ces canapés briochés. Le bois est épais, les coussins trop neufs. D'ailleurs, plutôt qu'épais, je dirais que le bois est épaissi. On dirait qu'un décorateur glouton a repris des meubles ancien régime pour les passer au four et au sucre. Quant au tissu trop neuf, aux coussins trop rebondis, aux couleurs trop fraîches, c'est parce que le palace est occupé par des clients qui ne veulent rien avoir à connaître des autres. Aucun cul n'a dû affaisser cette galette de fauteuil. Et si je dis cul, c'est à dessein, car pour tout client de palace, le corps des autres est vulgaire. Il veut avoir l'illusion qu'il arrive dans un monde idéal, où aucune imperfection humaine, aucune autre que la sienne en tout cas, n'a vécu. Dans un palace, on ne vit pas, on séjourne. Et qu'est-ce qu'un séjour sinon celui des dieux ? Le client de palace est un dieu qui débarque de son taxi comme Apollon de son char.
La grande vie dans les palaces, soyeux les lits, hautes les glaces, couloirs géants, parquets cirés, plateaux d'argent et barres lustrées. La grande vie, vaste salon, fauteuil cosy, rideau profond, tenue du soir et room service. Jardin anglais, après l'amour, seau de champagne, au petit jour.
Un chasseur à redingote et haute forme, rendu anonyme et sans corps par son uniforme, lui ouvre la porte sans maudire. On ne s'adresse pas à un dieu. Les portes à tambour s'ouvrent silencieusement devant lui, comme au Meurice à Paris, où elles sont automatisées. Il arrive au comptoir, où tout le monde est excessivement poli. Il ne porte rien. Il ne fait rien de pratique, et même la transaction d'argent a été déréalisée au maximum par l'usage de la carte de crédit ou, mieux, l'envoi d'une facture au bureau. Le client du palace est un exclu de luxe. Il est précédé vers l'ascenseur par un autre domestique qui le conduit. C'est une parodie de la vie de cour. Plutôt qu'un dieu, le client de palace ne serait-il pas le roi ? Il marche sur une moquette épaisse, aucun bruit n'en émane. C'est silencieux un palace. Ce qui est peut-être sa première caractéristique. Le bruit est la première des pollutions, la plus constante des agressions. Dans un palace, on chuchote. Dans un palace, on respire à peine. Dans un palace, on est entre deux mondes.
Well, what do you want? Can't a man have a little privacy around here?
The check, Mr. Miller.
Oh, the check. Is this check any good?
Why, yes, sir.
Well, we'll soon find out. There you are.
Thank you.
Don't give me any of that thank you stuff.
Mr. Miller, many times I have seen your company rehearsing on the 19th floor. Please, I would like to play the part of that foolish miner.
My advice to you is to stay where you are. Most actors will be tickled to death to get as close to a lamb chop as you, and I do mean you.
You're on the phone, Mr. Miller. Right over here.
Give him a dime. Hello?
Oh, Christine. Oh, hello, babe. How are you?
I'm going to be a little late. But I can't leave until Mr. Fremont goes to lunch. Is that all right?
Well, get over the rehearsal as soon as you can. Don't forget I'm making a star out of you, and you only invested $250 in the show.
All right. Bye.
Please, impresario, I read you what the Russian critic Yakubovich say about my interpretation of Uncle Vanya. Колоссальный успех артиста Московского художественного театра Александра Смирнова в роли дяди Вани.
That's very interesting. Just when did he say that?
Just before he was shot. It is just like in America, three and a half stars. And then, in the second act, with 300 peasants doing the Kazatsky... Rum, down, rum, rum, rum,
excuse me. Gordon, I want to talk to you.
Now, look, Joe, I never like to talk to a hotel manager on a full stomach.
Gordon, this whole thing is a mess.
You're referring to that meal I just had. You're dead right.
I knew this would happen. I should never have allowed you to this hotel.
Now, Joe, you mustn't be impatient. I'll pay this bill just as soon as I find some backers for my show. After all, you can't shake suckers out of your sleeve. Anyhow, I can't.
Nous sommes en effet entrés dans un monde nouveau, existant au bord du monde habituel, non pas caché, puisqu'un palace s'exhibe comme un gâteau dans la vitrine d'un pâtissier le dimanche, et qu'on peut y entrer comme on veut. Mais les visiteurs y sont comme invisibles, et il semble que, s'ils s'asseyaient dans ces fauteuils profonds, ils n'y imprimeraient aucun poids, ne plieraient en rien le tissu, ne seraient même pas vus des serveuses en costume qui, sérieuses comme des bourreaux, prennent la commande des riches clientes à côté. La popularité des palaces tient en partie à leur mauvais goût. Ce mauvais goût à la fois fastueux et tempéré, qu'on pourrait donc qualifier de Louis XV épaissi. Les chaises ont un dos cambré, mais le bois est rouge. Les moquettes sont de genre aubusson, mais molles comme des hamburgers. Les miroirs sont à volutes, mais d'une dorure de papier au chocolat. C'est le goût 1880, date des premiers palaces qui ont précédé la chute des palais. Ils annonçaient la fin des monarchies d'Europe en popularisant leur style. Il a fallu plus de 100 ans pour qu'il s'en invente un nouveau, un style sobre et stark, bois de vinguet et angle droit, qui ressemble à ce qu'admirent maintenant ceux qui s'y rendent, les spas. Les palaces à Paris ont été refaits depuis 2 ou 3 ans et continuent à l'être. Vers 2010, le gouvernement s'est rendu compte que les palaces de la ville étaient vieillissants. Le Ritz branlait, le Georges V avait des pellicules. Les nouveaux milliardaires, c'est-à-dire principalement les Russes et les Chinois, ne trouvaient aucun charme à cela. Ce sont des gens qui veulent du neuf et du neuf tapageur, du neuf qui prouve qu'on dépense. Une commission a été mise en place, dont les membres ont été chargés d'inspecter les palaces de toute la France pour vérifier s'ils étaient aux normes nouvelles édictées par le gouvernement. Et un grand nombre ne l'étaient pas. Et alors, ils n'ont pas obtenu la catégorie palace. Et ils ont fermé et été rachetés par on ne sait quel Qatari sarkozyste, quel Russe pro-Front National, quel Chinois pro-Chinois. Que de chantiers dans Paris! Des hélicoptères spéciaux ont transporté des plaques de marbre rare. Des chars à bœufs venus de Samarcande ont apporté des soieries. Des tanks dorés avec des lustres en guise de fanion ont charrié du mobilier. Le Crillon est encore en travaux, ainsi que le Ritz, poursuivi par la malédiction qui atteint son propriétaire Mohamed Al-Fayed. Il n'a jamais réussi à obtenir la nationalité anglaise. Son fils s'est tué dans un accident de voiture à Paris. Son Ritz, au bord d'ouvrir, a été en partie incendié. Avant même que ces deux hôtels-ci ne réouvrent, Paris s'est rempli de palaces, que dis-je, d'archi-palaces, des 62 étoiles. Le luxe s'y exhibe comme dans une ex-république soviétique qui transforme le pétrole en mauvais goût. À en voir certains, aux marbres blancs comme des chèques, aux bouquets de fleurs hauts comme des dériques, aux parfums d'ambiance envahissants comme l'armée russe, on se demande si le syndicat des palaces ne se trouverait pas au Kazakhstan.
C'est aujourd'hui.
Où est-ce que je vous emmène ?
C'est un luxueux complexe dont les résidents ont tous atteint l'âge de la maturité.
Dans le genre Costa Brava ?
Oui, mais avec plus d'éléphants.
C'est votre première visite en Inde ?
Oui. Je trouve que ce pays est plus civilisé qu'on aurait pu l'imaginer.
Bienvenue au palais exotique du Marigold d'hôtel.
Il y a un Indien dans la pièce.
Ce palais trônera encore pour des millénaires. Oh,
je me suis dit que j'allais le réparer moi-même.
Si vous commencez par
je vous rembourserai à 100%.
Vous feriez ça?
Sans la moindre hésitation, tout de suite dans 3 mois.
Vous vous sentez bien?
J'aurais bien un verre d'eau, c'est...
C'était un gin tonic.
En effet, je confirme.
J'ai eu un rêve, Mamidji. Je veux créer un refuge pour les anciens, où ils se sentiront si bien qu'ils vont tout simplement refuser de mourir.
Cet homme est décédé.
Je suis en enfer.
Avant de devenir la proie de groupes incultes ou de fonds de pension stupides, les palaces ont été l'invention de grands rêveurs, comme le cinéma. Le cinéma, à ses débuts, c'était des forains, des farceurs, des gens qui voulaient gagner de l'argent, mais en s'amusant, ce qui est une forme de gratuité. Et ils en perdaient en général de l'argent. Ils ont donc été rachetés par des AOL, Universal et autres Sony, dont l'esprit comptable fait regretter la saine vulgarité des Louis B. Mayer. Les palaces, c'est pareil. La rapacité aux yeux froids s'en est emparée. Avant elle, il y avait eu les César Ritz, le créateur du Ritz, dont l'histoire est bien connue. Et celle de notre hôtel, le Pera Palace d'Istanbul. En 1915, un Grec propriétaire de moulins à vent visite le Pera Palace à Istanbul. On le jette dehors à cause de sa mauvaise tenue. Il le rachète. Cette construction d'un architecte français qui a inventé le style néo-ottoman et en a couvert Istanbul se pastichant elle-même à la fin de l'Empire ottoman, avait logé les rois Édouard VII et Carole de Roumanie. La Première Guerre mondiale finie, le Pera Palace reçut ce que les Turcs alliés des Allemands ont appelé les forces d'occupation, suivant en cela une autre tradition des palaces. À Paris, durant la guerre suivante, ce fut le Lutetia, pendant que l'hôtel du Parc à Vichy faisait la guerre à l'hôtel Connaught à Londres. Dans l'un vivait Pétain, dans l'autre vivait De Gaulle. On pourrait raconter une histoire du monde par ces guerres d'hôtels. La première guerre du Liban, où des milices logeaient dans cet hôtel-ci ou dans cet hôtel-là, ne s'est-elle pas appelée la guerre des hôtels ?
Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love.
Saisi pour dette en 1922, nationalisé en 1923, passant à un fidèle d'Atatürk qui l'achète en 1928, le Pera Palace connaît son apothéose mondaine dans les années 60. Tito, Jacqueline Kennedy, les temps séduisants et internationalement dangereux de cette ville au bout de l'Europe, dans un pays qui était le dernier poste libre avant l'Empire soviétique. Au Pera Palace, Jules Dassin filme Top Capi avec Mélina Mercouri et Peter Ustinov en 1964. C'est d'après un roman d'Éric Ambler qui a beaucoup écrit sur Istanbul sans jamais avoir séjourné au Pera, au contraire d'Agatha Christie qui a souvent séjourné au Pera sans jamais avoir écrit sur la Turquie. En 1926, elle avait vécu un roman policier ou du moins tenté de le faire croire. Elle avait disparu 11 jours durant en Angleterre. Que s'est-il passé ? Agatha Christie ne l'a jamais dit. Les écrivains qui ont le sens de la célébrité appliquent l'antique recette des religions, entretenir le mystère, ne le révéler jamais. En 1979, la Warner, tournant un film sur la vie d'Agatha Christie, s'est rendu compte que, passé cet épisode, il n'y avait plus rien d'intéressant à raconter. Dans un de ces mouvements d'une grande sottise mêlée d'une grande ruse, comme annoncent si souvent les producteurs de cinéma, la Warner a consulté une voyante californienne qui, en direct sur une chaîne de télévision, a fait percer un mur de la chambre 411 du Pera Palace où était supposé se trouver un journal intime d'Agatha Christie. Et on a découvert quoi ? Une clé rouillée. Le directeur de l'hôtel l'a confisquée sur le champ et annoncé qu'il ne la prêterait à la Warner que contre 2 millions de dollars, 15% des recettes du film et une diffusion gratuite à la télé turque. Et le plus stupéfiant est que la Warner a accepté. La nouvelle séance prévue avec la voyante n'ayant pu avoir lieu à cause d'une grève des employés de l'hôtel, l'affaire en est restée là et voici comment le Pera Palace n'a jamais eu les moyens de se restaurer. Il a avancé jusqu'à nous à travers les âges, branlant de la tête comme une très vieille dame dont les excès de fard ne dissimulent pas les rides, avec sa cage d'escalier recouverte d'une peinture argentée et les fissures de ses portes mal colmatées par des couches de peinture successives. Le grand luxe le délaisse pour le Chiragan, ancien palais au bord du Bosphore, et le grand argent pour le Ritz-Carlton, laissant l'opéra plus littéraire dans une ville où l'arrivée des Turcs de l'Est, par millions, religieux et réactionnaires, se sont joints à Erdogan pour nous dégoûter d'y revenir jamais.
Sexy du micro chavirent, presque énervé. Barbarina affiche les fantômes. Quand Jojo me dit salut Jimmy, j'suis Danny Baby, elle est oligas en première partie.
Les écrivains contribuent au prestige des palaces. Ils sont comme le certificat d'esprit des lieux matérialistes. Pera, c'est le nom du quartier où se trouve cet hôtel, et c'est un quartier littéraire puisque c'est là qu'est né André Chénier, dont le père faisait commerce de tissus à Constantinople. Istanbul a un penchant pour la littérature française. Elle a une rue Lamartine. Et ne parlons pas de Pierre Loti, cet auteur qui a des solécismes tout plein d'âme, comme dirait le pamphlétaire Laurent Taillade. Un autre écrivain à avoir séjourné au Pera Palace, c'est Claude Farrère, auteur d'un roman colonial intitulé « Les civilisés ». C'était avant que l'Europe ne se laisse persuader d'avoir voulu le mal sur la terre. En 1932, à Paris, il a présidé la vente des écrivains combattants. Paul Doumer a inauguré, l'assassin s'est approché. Le président de la République est tué, tandis que Claude Farrère, qui s'était lancé en avant pour le protéger, est blessé au bras. Quel écrivain se placerait aujourd'hui entre une balle et François Hollande ?
Si maman me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi ? À nous voir flotter au vent, qu'est-ce qu'elle dirait maman ?
Que tu es un papillon,
que tu es ses ailes,
et que la vie est belle, belle quand on a des ailes.
Que tu sois ses ailes,
que
Un écrivain des palaces, un des premiers sans doute, c'est Marcel Proust. Dans « À la recherche du temps perdu », c'est à Balbec que le narrateur s'émerveille pour le grand hôtel, son architecture de gâteau et son microcosme de clients divers, du directeur parlant hasardeusement le français aux liftiers indiscrets. Proust nous fait comprendre qu'il y a quelque chose d'enfantin dans les palaces. Son secret professionnel à lui, c'est que les palaces sont des sortes de maisons de poupées pour adultes. Et voici ce qu'il en dit. Je comprenais très bien le charme que ce grand palace pouvait offrir à certaines personnes. Il était dressé comme un théâtre et une nombreuse figuration l'animait jusque dans les plaintes. Bien que le client ne fût qu'une sorte de spectateur, il était mêlé perpétuellement au spectacle. Non comme dans ces théâtres où les acteurs jouent une scène dans la salle, mais comme si la vie du spectateur se déroulait au milieu des somptuosités de la scène. Le joueur de tennis pouvait entrer en veston de flanelle blanche, le concierge s'était mis un habit bleu galonné d'argent pour lui donner ses lettres. Si ce joueur de tennis ne voulait pas monter à pied, il n'était pas moins mêlé aux acteurs en ayant à côté de lui, pour faire monter l'ascenseur, le lift aussi richement costumé. Les couloirs des étages dérobaient une fuite de caméristes et de couturières, belles sur la mer jusqu'aux petites chambres desquelles les amateurs de la beauté féminine ancillaire arrivaient par de savants détours. En bas, c'était l'élément masculin qui dominait et faisait de cet hôtel, à cause de l'extrême et oisive jeunesse des serviteurs, comme une sorte de tragédie judéo-chrétienne ayant pris corps et perpétuellement représentée. Les vieux palaces délabrés ont du charme. À Palerme, en Sicile, il y a le Grand Hôtel et des Palmes. J'ai bien dit Grand Hôtel et des Palmes. C'est un beau nom grammatical, élégant et bizarre, semblable à ces noms de famille des ducs en Bavière qui ne sont pas du tout la même chose que les ducs de Bavière. C'était un hôtel de luxe lorsque Raymond Roussel, l'auteur d'Impressions d'Afrique, s'y était suicidé. Richard Wagner y a vécu aussi, mais je crois que ça n'a aucun rapport avec le suicide de Roussel. Si la musique de Wagner, si souvent fastidieuse, avait provoqué des suicides, vous imaginez? Et qu'a-t-on à Nuremberg? Plus de Hitler, plus de guerre nazie à l'humanité. Rien ne rappelle le souvenir de Raymond Roussel dans cet hôtel à fêlures et fissures où les maîtres d'hôtel sont aussi décrépits que les murs. Mais un buste de Wagner se trouve à l'entrée, au centre d'un petit bassin à jet d'eau. J'ai couché au Grand Hôtel et des Palmes, mais ça m'a fait moins plaisir que de coucher au Raffles à Singapour, l'ancien Raffles, car lui aussi a été refait et il est devenu une espèce de rutilant tombeau de marbre blanc et d'or, un peu trop neuf, un peu trop luxueux. Avant, c'était une grosse maison vieillissante au bord de l'eau, où dans de grandes salles à manger aux trois quarts vides, battait un ventilateur de plafond d'un rythme un peu flappy, pendant qu'une vieille chanteuse au corps d'amphore, Marlène Dietrich chinoise, chantait avec un léger accent des tubes des années 50, comme dans un film de Wong Kar-wai. Somerset Maugham, ou Somerset Maugham comme on le prononce à la française, est descendu là souvent, on visitait sa chambre au rez-de-chaussée, donnant sur la plage. Il a beaucoup travaillé, Somerset Maugham, et je suis bien content pour lui qu'il ait pu s'offrir le luxe de le faire dans des palaces.
Pourquoi souhaites-tu être lobby boy ?
Qui ne le souhaite pas ? Au Grand Budapest, monsieur.
Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby boy débutant sous le sévère commandement de monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui.
Je vous aime.
Je vous aime.
C'était de la dynamite, cette femme au plumard.
Elle avait 84 ans.
J'en ai eu des plus vieilles.
Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha.
Elle est charmante, elle est si charmante.
Il flirte avec toi ?
Oui.
Je vous donne ma bénédiction.
Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur.
La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée et vous croyez que je l'ai tuée. Hé ! Arrêtez ! Vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliquée à la morgue, mais je veux la même.
Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H., je lègue le tableau nommé « Garçon à la pomme ».
Wow. Quoi ?
Gustave H.
J'ai bien peur que ce soit moi, très cher.
Si jamais j'apprends que vous avez posé un seul doigt sur ma mère, vivante ou morte,
je couche avec tous mes amis.
Il faut faire un projet pour ta survie. Cache ça. C'est un code et il te faudra une loupe pour le lire, mais il t'indique où et comment retrouver le garçon à la pomme.
Je suis boulangère.
Tu es
je suis pas une fourgueuse, si c'est le bon terme.
Pour en revenir à Agatha Christie, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a fourni la meilleure réponse à une des questions les plus sottes qu'on puisse poser à un écrivain. Dans son roman « Passager pour Téhéran », quelqu'un demande au personnage du romancier « Où allez-vous chercher vos idées ?» Eh bien, je crois que nous devrions plus souvent répondre comme lui. En général, je me fournis chez Harrods. Une des plus jolies choses qui me soit arrivée dans ma vie m'est arrivée dans un palace. Le jour de mon anniversaire, il y a quelques années, quelqu'un qui m'aimait m'a amené dans un grand restaurant. Puis, quand le taxi de retour a dévié du chemin de la maison, j'ai compris qu'une chose agréable se préparait. Et il avait loué une suite au Raphaël pour le week-end. Quantité de détails plein de tact m'attendait, car cet homme est la personne qui a le plus de tact que j'ai rencontré de ma vie. Quand il s'est agi d'ouvrir le champagne avec ma fameuse adresse, j'ai laissé le bouchon foncer sur ma bouche. Et me voilà, enveloppant des glaçons dans une serviette et me tamponnant pendant 20 minutes. J'ai oublié de dire que mon compagnon avait l'épaule bandée à la suite d'un accident de vélo. Ce compagnonnage d'estropié de luxe, c'était gai comme tout. Je te remercie encore pour cela et pour tant d'autres choses, mon si cher ami, qui avait le cœur grand comme un palace. Toi et moi avons fait ce jour-là un croche-pied au luxe. Serait-ce cela le secret professionnel du bon usage des palaces? En souvenir de ce moment qui est un des délicieux souvenirs de ma vie, je te dédie cette émission. C'était Secret professionnel, réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Jean-Richard Dufour, recherche INA, Joseph Sariera. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.